tarde non sono mai ieri e ti amo e la
Bonjour, merci de suivre votre émission Objection. Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche un économiste, un ancien fonctionnaire international de la BAD, de la Banque africaine de développement. Notre invité est auteur de l'ouvrage intitulé « L'Afrique au secours de l'Afrique ». Monsieur Sanoumbey, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Alors, Monsieur Sanoumbey, l'avènement de Macky Sall coïncide avec une demande citoyenne de reddition des comptes, une bonne gouvernance et une réduction du coût de la vie. À l'épreuve, la résolution des problèmes n'est pas aisée au vu surtout du contexte mondial difficile avec la hausse du baril du pétrole et de la rareté de certains produits d'importation comme le riz. Le président Sall mise sur l'agriculture, le mix énergétique et la réduction du train de vie de l'État. Les réformes ont démarré, entre autres la réforme des impôts et domaines, en attendant bien sûr la finalisation du code des douanes. Que dire alors des agrégats économiques ? Vous êtes économiste, M. Mbaye, le PIB stagne, le taux de croissance est loin des deux chiffres, le service de la dette reste pesant sur les finances publiques, l'État cherche du cash, des liquidités, le temps presse, les urgences restent d'actualité, le peuple s'impatiente. Et c'est dans ce contexte que Barack Obama est attendu à Dakar. Hormis l'exaltation de la démocratie, dites-nous, M. Mbaye, quel est l'enjeu de la venue de Barack Obama au Sénégal?
Je crois que l'enjeu, Barack Obama vient au Sénégal, on peut citer trois enjeux. Le premier, c'est que aucun État dans ce monde, encore moins la première puissance économique mondiale, ne peut ignorer l'Afrique. L'Afrique, maintenant, a quand même les réserves de croissance économique les plus importantes hein, du monde. Hein. L'Afrique, c'est un peu ce que la Chine était il y a 30 ans. Donc, aucun pays ne peut se permettre d'ignorer ce continent dans ses stratégies futures. La deuxième raison, c'est qu'il y a un problème de sécurité. Les États-Unis se sont engagés dans ce qu'on appelle la guerre contre la terreur, qui se trouve, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu en Libye, comme on l'a vu en Algérie, que justement la stratégie de lutte contre le terrorisme maintenant n'est plus du tout concentré à l'intérieur des frontières occidentales. Là, les Occidentaux ont réussi plus ou moins depuis les attaques de septembre. Il y a eu quelques attaques par-ci, par-là, en Angleterre, par exemple, mais ils ont réussi à sécuriser quand même leurs frontières. Maintenant, évidemment, les terroristes ont adopté une autre stratégie, les attaques à partir de l'extérieur. Donc, les États-Unis ont besoin aussi de se garder ici et il y a quand même, ils ont mis sur pied l'Africom. Et cherche d'ailleurs un siège africain pour cette force d'intervention, cette force de sécurisation des intérêts américains.
Mmh. Alors, et oui.
Le troisième objectif, c'est que la puissance rivale maintenant, vous savez, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait la guerre. Donc, en fait, les deux puissances dominantes, c'était les États-Unis et l'URSS. Et puis après, il y a la chute du mur de Berlin, la globalisation, et maintenant la puissance dominante, la deuxième puissance économique mondiale, c'est la Chine. Et la Chine est en train de faire des progrès en Afrique absolument époustouflants, et les Occidentaux font tout ce qu'ils peuvent, évidemment, pour freiner cette progression, et pourtant cette progression, c'est dans l'intérêt des Africains. Donc au moins, il y a trois objectifs qu'on peut signaler, indépendamment, évidemment, de l'objectif qui chatouille notre ego. On nous parle tout le temps de l'exemple de la démocratie sénégalaise. Mais enfin, Obama vient, c'est pas seulement au Sénégal. Après, il va se rendre en Tanzanie, c'est le pays qui est choisi pour l'Afrique de l'Est. Mm-hmm. Et en Afrique du Sud, c'est le pays qui est choisi pour l'Afrique du Sud.
Oui. Alors, parlons de l'aspect sécuritaire qui préoccupe beaucoup l'administration Obama, qui a décidé d'ailleurs dans le cadre de la guerre préventive contre le terrorisme. Alors, cette administration Obama lutte contre les narcotrafiquants. Le Sénégal peut-il alors constituer un allié sûr aux côtés des États-Unis?
Mais vous savez, si vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas si vous avez vu l'évolution maintenant de la stratégie d'engagement des États-Unis et des pays occidentaux, que ce soit qui était en Libye ou au Mali. Bon, c'est Il s'occupe de la couverture aérienne, de l'entraînement, de la fourniture de certains des équipements. Et après, c'est les soldats internes au feu, hein. On les a vus en Libye, puis bon, on le voit au Mali. Donc, le Sénégal ayant une des armées qui a participé quand même à beaucoup de forces d'intervention de la paix, de sécurisation en Afrique, le Sénégal, aussi bien son armée que sa police. Il n'y a aucun État qui peut, dans le continent, vouloir, surtout en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier quand même un fait extrêmement important, c'est que les États-Unis importent de l'Afrique plus de pétrole qu'ils n'en importent de l'Arabie Saoudite. Et tout le pétrole africain vient du golfe de Guinée. Donc, les premières mesures de sécurité en Afrique, ça concernera l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, le golfe de Guinée, l'Afrique de. C'est là une pièce maîtresse de la sécurité, concernera le Sénégal indubitablement.
Mais alors, du point de vue géopolitique et géostratégique, quelle place occupe le Sénégal dans la stratégie des Américains?
Il y a sa position stratégique. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la construction maintenant de l'ambassade américaine, hein, le nombre de personnes qui est prévu. Donc, pour la sécurité américaine, la position stratégique du Sénégal, sa stabilité, son histoire, le fait que l'administration américaine aurait très peu de difficultés de choisir un pays où il n'y a jamais eu quand même de coup d'État, où il y a quand même des institutions démocratique. Donc, qu'on choisisse le Sénégal, ça c'est une bonne chose. Maintenant, eux, ils savent ce qu'ils veulent, hein, qu'il s'agisse d'ailleurs des Américains ou des Chinois. Mais est-ce que nous, au Sénégal, confrontés à nos difficultés, confrontés à nos problèmes, on sait ce qu'on veut de nous. Est-ce que nous sommes été préparés pour demander aux Américains ce qu'on attend d'eux? Parce que le Sénégal, quand même, est un pays qui a énormément de problèmes.
Vous avez certainement la réponse.
Ben, j'espère que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent. Ces visites sont longues, m'a préparé. Le Sénégal a des problèmes certains. Étant classé dans les pays pauvres, très endettés, le Sénégal n'a accès qu'au financement. Qu'à l'aide bilatérale aux investissements directs étrangers, que ce soit ou alors des investissements locaux, quoi. Mais le Sénégal est confronté à des problèmes économiques certains. Maintenant, par rapport à nos relations avec les États-Unis, c'est quoi? Si c'est sur le plan de l'investissement aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez? Sa politique, c'est déterminer sur le Fonds monétaire international. Le Sénégal a signé un instrument de soutien pour sa politique économique. Ça suppose donc réduire le déficit budgétaire. On fixe à 2015 la possibilité du Sénégal de réduire ça à moins de 4%, ce qui libérerait quand même des espaces budgétaires. Mais bon, c'est d'ici 2015. Et bon, déjà, on a reculé la date parce qu'il y a eu des dépenses imprévues pour la crise au Mali, pour les inondations. Donc, là, notre marge de manœuvre est très, très restreinte. Est-ce que le Sénégal a demandé aux États-Unis d'investir? Donc, les États-Unis les renverraient à nos accords avec le Fonds monétaire international. Sur ce qui est du commerce, c'est l'AGOA. Mais malheureusement, l'AGOA est très, très, très contraignant. L'AGOA, c'est donc le traité, la loi que les Américains ont signé avec les Africains, pour leur faciliter l'accès du marché américain. Mais il se trouve que 95% ou 15% des exportations sur les États-Unis, c'est du pétrole. Le Sénégal ne produit pas de pétrole. Les autres 5%, c'est surtout le textile, mais il se trouve que le quota africain d'exportation par les États-Unis, maintenant, c'est les Chinois qui l'achètent, parce que c'est eux qui ont acheté les industries textiles du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Donc, le Sénégal, les États-Unis, ce n'est pas un partenaire commercial important. Les États-Unis ont besoin du Sénégal pour sa sécurité. Et si le Sénégal est venu demander aux États-Unis d'investir et demander aux États-Unis, par exemple, d'aider dans la résolution de la crise casamançaise, notamment dans le déminage, parce que vous savez que le Sénégal, quand même, ses populations sont encore nourries en partie par le programme alimentaire mondial, y compris en Casamance, une terre où il pleut, où les terres sont fertiles, mais quand même, nous, on n'arrive pas même à nourrir nos populations là-bas. Donc, quand même, on a des problèmes certains, des problèmes énergétiques. Est-ce que tous ces dossiers-là ont été préparés pour les aborder avec les Américains? Je n'en suis pas sûr, je ne sais pas, probablement.
Alors, quelle doit être alors la stratégie que devrait développer le Sénégal?
Le pays qui a fait la différence en Afrique et qui va continuer à faire la différence en Afrique, c'est la Chine. Hein, il faut voir en termes d'exportateurs et d'importateurs de capitaux. Les Américains, le premier banquier des Américains, ce sont les Chinois. Donc les Africains sont même en compétition pour ce qui est des investissements avec les Africains, les Occidentaux, parce qu'en fait, les pays exportateurs de capitaux maintenant, c'est la Chine et certains pays émergents. C'est la Chine qui a fait la différence. Et vous voyez par exemple les pays que Obama a déjà visité, que ce soit le Ghana ou qu'il va visiter, que ce soit le Tanzanie, que ce soit l'Afrique du Sud, c'est la Chine qui a fait la différence. Il se trouve que la Chine n'intervient nulle part dans aucun pays de la zone franc. C'est-à-dire qu'il y a un veto total. La France a proposé à la Chine un partenariat pour investir en Afrique francophone. Je ne sais pas ce que ça a donné. C'est dommage que les Africains francophones doivent passer par la Chine, par un intermédiaire. Ou alors, est-ce qu'il faudrait changer de politique et puis accueillir ces fonds? Et là, je suis sceptique, parce que moi-même, personnellement, de Londres, il y a des fonds asiatiques, 10 milliards de dollars, qui ont été alloués au Sénégal pour des infrastructures, pour un package de commerce, d'architecture, de commerce, et puis surtout de professionnels. Mais il n'y a pas eu de réponse.
Oui.
Si vous voyez bien, donnez-moi un seul exemple d'un pays francophone, qu'il s'agisse du Sénégal, qu'il s'agisse du Mali, ou de la Côte d'Ivoire, ou du Cameroun, où justement on a vu cette rupture avec des investissements asiatiques. Donc ça, ce n'est pas du tout dans le cadre de la visite d'Obama qu'il faut l'inscrire, c'est dans le cadre de nos rapports, parce que vous savez, la division internationale des rôles en Afrique, ça relève toujours de la guerre froide, c'est-à-dire c'est la France qui s'occupe de sa zone, de son précaré. Et même quand il y a des problèmes, par exemple, vous voyez, les Américains, c'est les Français qui envoient des troupes au Mali, les Américains apportent le souci logistique, le support logistique, et les Américains entraînent les armées. Mais c'est du domaine de la France.
On sait que la Chine investit de plus en plus en Afrique. Alors, est-il venu le temps pour les Américains, à travers cette visite, de renforcer leur présence sur le continent africain?
Mais en tout cas, ils la renforcent sur le plan militaire. Sur le plan économique, vous savez, l'Amérique, c'est aussi... c'est la politique occidentale, l'approche occidentale en matière de développement, c'est ce qu'ils appellent l'aide publique au développement. Donc l'aide publique au développement, ça a été leur politique. Maintenant qu'ils disent que bon, maintenant pour les conditionnalités qui s'attachent à cet ordre, c'est toujours la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence. Et c'est dans ce cadre qu'on opère. Et c'est tout bon, de toutes les sources de financement, hein, c'est l'aide publique au développement qui est la moins performante. Les autres sont là, hein. Vous pouvez emprunter sur le marché financier, vous pouvez laisser les marchés émergents venir investir chez vous. Il y a vos propres ressources domestiques que vous pouvez mobiliser. Là, on aurait aimé que le Sénégal aussi demande le soutien aux États-Unis pour créer une banque, une bourse régionale pour mobiliser nos ressources intérieures. Hein, on aurait aimé que le Sénégal s'appuie davantage sur la bourse régionale. Mais je vous dis, en dépit du fait que le fait marquant pour la première fois dans l'histoire, il y a assez de ressources pour financer le développement dans le monde. Il se trouve qu'il y a il y a une misallocation de ces ressources-là. Maintenant, il est temps d'en changer. Et le Sénégal, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est en restant enfermé dans le système de Bretton Woods. Je vous dis qu'en étant inscrit dans les pays pauvres, très endettés, le Sénégal ne peut accéder qu'à l'aide ou alors l'investissement, que ce soit public ou privé.
Oui.
Alors, il faut savoir si le Sénégal, maintenant, a mis l'environnement nécessaire pour attirer l'investissement. Mais pour le moment, on n'est pas dans une phase de politique d'austérité jusqu'en 2015 au moins. Alors, comparer cette phase de politique d'austérité où il faut réduire les dépenses de l'État, aux circonstances actuelles du Sénégal, où il y a une demande sociale extrêmement importante, où il y a des problèmes d'énergie absolument insupportables. Donc, franchement, nous avons du pain sur la planche.
Oui, du pain sur la planche, pendant que beaucoup d'observateurs disent que l'Afrique est le continent de l'avenir, un sous-sol riche en pétrole, en minerais de toutes sortes, Est-ce que selon vous, les Américains veulent anticiper la confrontation économique avec la seconde puissance économique mondiale? Je veux parler de la Chine.
Moi, ce que je sais, c'est que la politique de développement américaine, ça s'appuie d'une part sur l'aide publique au développement. Ça, c'est le domaine des institutions de Bretton Woods. Ces institutions de Bretton Woods, on veut les réformer, on veut donner beaucoup plus de voix et d'action aux pays émergents. Mais bon, les institutions de Bretton Woods sont l'instrument politique et économique par lequel les pays occidentaux imposent leur desiderata aux pays en développement. Les autres en ont échappé. Tous ceux qui bénéficient maintenant des investissements chinois et des pays émergents en ont bénéficié. Parce qu'en fin de compte, il faut vous rendre compte que ces pays s'étaient embarqués déjà dans des programmes d'investissement structurel durant toute l'année, tout au long des années 80-90. Et quand ils sont arrivés au bout, quand ils ont eu des finances publiques saines, c'est en ce moment justement qu'est arrivé, qu'il y a eu l'arrivée opportune de la Chine. Le Sénégal était dans les mêmes positions, on a eu un changement de gouvernement en disant que les comptes publics se sont détériorés. Et maintenant, on se retrouve dans cette situation où justement, le financement complémentaire dont on aurait besoin désespérément viendrait de ces pays émergents. Mais donnez-moi, le Sénégal a besoin qu'on construise des chemins de fer, des routes pour désenclaver aussi bien le sud que l'est. Nous avons besoin de construire des ports pour exploiter notre minerai, un port à Bargny. Nous avons besoin de restaurer le chemin de fer. Donc tous ces projets sont là, les financements peuvent être disponibles, mais ça n'avance pas. Nous restons toujours dans le cadre de ces programmes de réduction de la pauvreté, des institutions de Bretton Woods. Bon, c'est vraiment difficile. Et quand vous pensez qu'en fait, le premier partenaire commercial envisagerait de restaurer le chemin de fer Dakar-Bamako, de l'amener même jusqu'au Niger, de les mettre aux normes nationales. Je veux dire, il y a énormément de choses à faire. Mais jusqu'à présent, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, vraiment, on continue dans la bonne, comme les Anglais disent, business as usual. Et on n'en sortira pas comme ça. Et ce n'est pas seulement le Sénégal. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Mali, regardez le Tchad, regardez le Niger. Partout, le pays qui essaie d'attirer un poids sans peu les subventions chinoises dans la zone franc, c'est le Cameroun. Et alors, on t'en sort pas, ils essaient de mettre sur pied une industrie de construction de voitures, mais c'est tout. Hein.
Mais c'est tout. Je rappelle que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Sanoumbeï, économiste, ancien fonctionnaire international de la BAD, auteur de l'ouvrage L'Afrique au secours de l'Afrique. Alors, M. Mbeï, dans ce partenariat recherché, la stabilité des institutions représente un gage pour de meilleurs échanges commerciaux. Alors, quel regard jetez-vous sur le fonctionnement des institutions sénégalaises?
Moi, je pars du principe que ce sont les personnes qui servent les institutions. Parce que si on regarde bien, on parle beaucoup d'institutions au Sénégal. Mais enfin, par exemple, prenons la constitution. On avait une constitution qui était très bien jusqu'à ce qu'un chef d'État vienne et se mette à réviser cette constitution. Prenez l'Assemblée nationale, c'était tous les 5 ans que le président de l'Assemblée nationale devait changer. Après, il y a un an, je veux dire, si on regarde les problèmes juridiques au Sénégal, mais c'est tout à fait. Je regarde la police, la gendarmerie, et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que, par exemple, prenons le cas d'un fait fondamental, l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif. Mais c'est inscrit dans les institutions. Mais c'est aux hommes, c'est aux juges, c'est de réclamer cette liberté-là. Je vous rappelle que, par exemple, après la révolution sociale de 68, en France, par exemple, c'est la révolte des juges d'instruction qui a amené ce bouleversement. Donc, moi, je pense que les institutions, c'est toujours à améliorer. Hein, d'autant plus que ce sont des institutions qui avaient des mains de la colonisation, on les a adaptées. Mais franchement, je veux dire, ce sont les gens qui servent les institutions. Vous prenez, par exemple, l'économie. L'économie. Bon, parmi les institutions de la zone franc, vous avez quand même tous ces accords qui sous-tendent sultan de la zone franc. J'aurais aimé avoir un juge qui serait bon, un juge qui dit, mais est-ce que c'est constitutionnel de voir les aspects même de la finalité de tels accords. Mais enfin, c'est excellent. Il y a le professeur Beau qui préside à cette révision des institutions. Mais je répète, les institutions ne valent que par les hommes qui les servent. Et franchement, au Sénégal, j'avoue qu'on a un cadre fonctionnel qui est très satisfaisant, de mon point de vue.
Oui, toujours au sujet de ces institutions, et notamment des réformes en cours, une grande influence de l'exécutif sur le législatif et même sur le judiciaire est relevée par des observateurs très avertis de la vie politique sénégalaise. Les réformes sont entamées. Doivent-elles aller vite, selon vous, pour capter plus d'investissements au Sénégal?
Avoir les investissements, avoir un environnement, des institutions qui fonctionnent bien, ça procède de cet environnement qui peut attirer les investisseurs étrangers. Quoi. Vous savez, les investisseurs, vous avez deux catégories d'investisseurs. Il y a les investisseurs étrangers, puis il y a les investisseurs locaux. Bon, mais alors, vous créez cet environnement qui leur facilite cet épanouissement, c'est tant mieux. Si les gens sont conscients qu'en investissant, ils ont la sécurité, hein, la sécurité de l'investissement, du remboursement, mais c'est tout à fait parfait. Je crois que pour le moment, je vous dis, il y a des pays qui sont exportateurs de capitaux, d'autres qui sont importateurs de capitaux. Les pays qui sont exportateurs de capitaux, on les voit, ce sont ces pays qu'on doit aller voir. Le Sénégal n'ayant plus le droit à aucun prêt, sinon un prêt concessionnel. Donc, c'est maintenant au secteur privé et normalement, les investissements qu'on peut attendre, c'est des investissements directs étrangers, aussi bien privés que publics.
Alors, Sadou Mbaye, vous êtes économiste. Comment appréciez-vous la situation économique du Sénégal à l'heure actuelle?
Nous avons un déficit budgétaire qui se situe à plus de 6%. Nous avons signé avec le Fonds monétaire international un outil de soutien à la politique économique. Ce budget doit être ramené à moins de 4%, ce qui veut dire qu'il faut réduire les dépenses, augmenter les dépenses. Pour ce qui est de réduire les dépenses, bon, l'État est en train de réduire ses trains de vie, mais pour ce qui est d'augmenter les recettes, il y a un nouveau code des impôts qui a été mis sur place. Donc, mais vous savez, ça prendra du temps. Donc, il faut augmenter les recettes, il faut réduire les dépenses. Et dans 5 ans, d'ici 2015, on espère arriver à un équilibre budgétaire qui pourra permettre au Sénégal d'avoir beaucoup plus d'espace en attendant à l'aide que nous recevons, donc l'aide que nous recevons des institutions de Bretton Woods, l'aide bilatérale et tout ce dont nous avons droit pour le moment.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'environnement des affaires qui doit être amélioré. À côté de l'APICS, le chef de l'État, dans le dernier conseil des ministres, a émis le souhait de créer un observatoire national des investissements. Objectif, rendre l'environnement plus favorable aux affaires. Alors, que vous inspire une telle démarche?
J'avoue que c'est vous qui me l'apprenez. Hein. Autant on a des investissements, évidemment, tous les investissements, on ne veut pas des investissements spéculatifs, on veut des investissements productifs, mais plus on peut en avoir, mieux c'est. Moi, je vous dis que dans le cas actuel des choses, même là, tel qu'on en est, avec ce qu'on a, sans institution première, nous avons besoin d'investissements. Les investissements, pour le moment, le Sénégal ne veut pas aller emprunter pour le moment compte tenu de ses engagements internationaux. Donc, c'est les autres qui peuvent juger que le Sénégal est un pays porteur et viennent investir. Ceux qui veulent juger que le Sénégal est un pays porteur, est-ce qu'ils mettent le Sénégal dans le même cas qu'ils mettent les autres pays? Parce que le Ghana, en Afrique de l'Ouest, il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a maintenant la Sierra Leone, il y a maintenant le Libéria. Tous ces pays-là, maintenant, font partie des pays dont les activités économiques ont été boostées énormément par les investissements asiatiques. Donc, le Sénégal doit rien, en dehors de l'exclusivité française, rien n'interdit au Sénégal d'aller chercher ces packages que les autres proposent à l'aide publique au développement. Maintenant, les pays émergents, la France, c'est la Chine qui a donné l'exemple, les pays émergents viennent avec un package, c'est-à-dire il y a un volet commerce, il y a un volet investissement et il y a un volet aide. Et on vient toujours avec un paquet. C'est un paquet de 10 milliards de dollars comme ça. qui avait été proposé au Sénégal à travers moi par Blackstone. Blackstone, c'est une boîte américaine d'investissement dans laquelle les Chinois ont pris 17% de participation. Donc, c'est le véhicule, pour, c'est un de leurs véhicules. Et vous ne pouvez pas être plus wise que le roi. Vous ne pouvez pas ne pas produire. Le Sénégal a un programme d'investissement des infrastructures qui a été bien fait. Les études ont été faites ou alors peuvent être réalisées. Le Sénégal, de prendre ces dossiers, les amener là, ils peuvent être intéressés pour les financer.
Alors, la question,
mettre en place une nouvelle question d'investissement favorisé de ça, franchement, je vous dis que c'est par vous. Il y a ce problème, je ne le savais pas.
Alors, une question concernant la situation du sucre au Sénégal avec ce conflit entre l'UNACWA et la compagnie sucrière sénégalaise. Ce combat ne date pas de maintenant sur la libéralisation, sur le monopole du sucre par la compagnie sucrière sénégalaise. Que vous inspire cette situation? Une situation que l'État du Sénégal peine à résoudre.
Oui. Vous savez, il y a un problème. Donc, c'est une forme de subvention qui est faite. Il y a une distorsion des prix. Je sais que le sucre, le marché n'a jamais été libéralisé. Je sais que ça, c'est un monopole de Nimran. Hein. Je crois que c'est le groupe Nimran. Hein. Ça, c'est encore les magouilles politiciennes sénégalaises. Là. Mais j'avoue que franchement, sur ce plan-là, je ne voudrais pas m'avancer trop longtemps. Je crois que c'est encore cette situation de rente-là qu'on voit au Sénégal, hein, aux situations de monopole, aussi au niveau des banques commerciales. Le Sénégal est tout content. Vous parliez d'investissement. Le Sénégal, comme tous les pays francophones, sont tout à fait satisfaits de recourir à des financements à court terme des banques commerciales, c'est-à-dire de la Société Générale, la BNP. Ça nous coûte une fortune, ben, mais au lieu de développer la technicité nécessaire, pour emprunter non seulement sur les marchés des capitaux, mais pour élargir votre palette, avoir de nouveaux partenaires. Mais non, nous on reste un peu dans le cadre qui a été façonné. Le cadre, c'est un cadre tout à fait néocolonial qui a été façonné dans le cadre tel qu'il existe, le cadre de fonctionnement de la zone franc, hein, avec le CFA au centre de ce fonctionnement. C'est un environnement tout à fait impropre au développement. Tout à fait impropre. Et je vous parie, je vous donne le pari de me citer un seul pays de la zone franc, hein, dont l'environnement économique maintenant, vous pouvez le comparer à l'environnement qui se passe au Ghana, à l'environnement qui se passe, mettons, en Éthiopie ou au Kenya.
Mais c'est dû à quoi?
C'est dû à quoi? Vous savez tout à fait très bien que le Sénégal, comme tous les pays de la zone franc, ont signé des accords aussi bien monétaires que sécuritaires avec la France. Ces accords obéissent à des règles qui sont impropres au fonctionnement d'un pays pauvre comme le nôtre. Quoi. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie soi-disant convertible, librement transférable, hein, un taux de change fixe le plus élevé du monde. C'est pas possible. C'est simplement pas possible de fonctionner dans ce cadre-là. Librement transférable, les capitaux, il y a deux fois plus de capitaux qui sortent de ces pays de la zone franc que des capitaux qui y rentrent. Comment vous pouvez gérer ça? Tous ceux qui ont essayé d'y s'opposer, par patriotisme ou par démagogie, ont été liés. Le dernier, c'est Bagbo.
Alors, l'objectif final, c'est d'en arriver à un taux de croissance à deux chiffres. Selon vous, en tant qu'économiste, est-ce que c'est possible, dans le contexte pareil, d'en arriver à un taux de croissance à deux chiffres?
Que les Éthiopiens nous parlent de ça, que les Kenyans nous parlent de ça, oui, moi je veux bien. À la limite, dans les pays francophones, un pays qui pourra avoir une croissance à deux chiffres, mais ce sera la Côte d'Ivoire, mais ça c'est totalement différent des fondamentaux. C'est un pays qui était en guerre civile, qui revient, des capacités, aussi pour les ports, des transports, etc. Donc au début, c'est comme une pays qui sort de la guerre civile, il faut avoir les taux de croissance économique de la RDC ou du Rwanda quand ça venait juste de sortir de la guerre. Donc ça, c'est normal. Mais dans l'état actuel des choses, il ne faut quand même pas se faire des illusions, quoi, pour ne pas rêver. Quoi. Hein? On a des taux de 2%, on espère qu'avec tous ces pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays, vous savez, les quarantaines de pays qu'on appelle les pays pauvres endettés, hein, les deux tiers, c'est africain, et les deux tiers, parmi ces deux tiers, il faut voir, hein, il y a énormément de pays de la zone franc là-dedans. Donc, rêver d'un taux de 2%, ce n'est pas possible. Ce n'est possible dans la mesure que, d'abord, les réformes des institutions continuent, l'environnement continue, mais on atteint ces capitaux émergents qui ne demandent qu'à venir. Mais vous voyez, on avait déjà, par exemple, l'exploitation de notre minerai de fer. On avait conclu un marché qui devait faire construire un port à Barnier et puis pour faire un chemin de fer qui va jusqu'au palais. Mais ça n'a pas abouti. Mais il y a d'autres qui sont prêts. Il y a d'autres qui sont prêts pour venir. La restauration des chemins de fer, ces infrastructures. Nous-mêmes, on a, au niveau du ministère des Transports, les projets sont là. Il faut donc aller les chercher, mais dire que bon, on va avoir un taux à deux chiffres, mais basé sur quoi? Sur quel investissement? Sur quel type de consommation? Mm-hmm. Vous me le dites?
Du tout. Alors, le recours à l'emprunt obligataire, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant qu'économiste?
C'est une forme de lever des fonds, et cette forme de lever des fonds est beaucoup moins chère que d'aller dans les banques commerciales, continuer à avoir des banques commerciales qui nous prêtent tous les 3 mois des taux usuraires. On ne finance pas avec des crédits à court terme un programme de développement. Donc, s'exercer pour lever plus de fonds sur le marché des capitaux régional en Côte d'Ivoire, qui est en Côte d'Ivoire, mettre sur pied notre propre bourse pour pouvoir mieux canaliser l'épargne intérieure, parce que nos populations ont très peu de comptes bancaires. Les économies sont très, très, très fondées sur l'espèce, sur le cash. Donc, il faut développer des techniques. Et ça, par exemple, avoir une bourse. Le Sénégal vient dire que, bon, j'ai un projet de chemin de fer, parce qu'il y a des options obligataires. Il ne s'agit pas seulement de les lancer, mais d'attirer. Avant d'attirer les fonds extérieurs, attire d'abord les fonds intérieurs. Attire d'abord les réserves. Hein? Vous, Omar Gueye, on vous dit, écoutez, vous avez un peu d'épargne, on va bâtir un chemin de fer de tel pays à tel pays au Sénégal. Bon, voici le taux de profit qu'on espère, c'est le temps. Bon, on approche des obligations, vous allez acheter l'obligation si vous avez confiance dans votre pays. Donc, les emprunts sur le marché obligataire, développer les techniques, non seulement pour les États, mais pour les entreprises. Pour les entreprises, je vous dis, c'est une manière de lever des fonds. Et cette manière de lever des fonds vous donne des possibilités, sans ces conditionnalités, des institutions de prêt aux coûts, qui sont beaucoup meilleurs. Donc, c'est tant mieux. Il faut. Le Sénégal, d'ailleurs, a une notation financière qui est assez bonne, qui a déjà levé des fonds sur le marché financier. Mais compte tenu de la détérioration de notre environnement budgétaire, après, le Sénégal ne pouvait plus tout se permettre de prendre aucun prêt. Maintenant, quand le niveau budgétaire, les institutions de Bretton Woods vous disent que vous avez un déficit budgétaire de plus de 6%, il faut le rendre à 3%. D'ici là, vous n'avez droit qu'à des prêts concessionnels. Donc, les gens prennent le bâton de leur sémine et puis ils se vont voir les Qatars et tout ça. Il y a les différentes formes de différentes sources de financement maintenant. Mm-hmm. Il y a les marchés obligataires, comme vous dites. Il y a les actions, il y a les fonds souverains, il y a les fonds d'investissement privé, il y a les fonds de garantie. Pour mobiliser toutes ces ressources-là, mais autant les autres pays africains sont de plus en plus mais adeptes à ce genre de financement, mais le Kenya va lever 5 milliards de dollars.
En termes de perspective, finalement, quels sont les grands défis auxquels le chef de l'État Macky Sall est confronté et qui nécessite solution ici et là?
Les défis, c'est de redresser l'économie, de restructurer l'économie pour sortir du piège piège de la zone franc. On lui demande simplement, moi, la stratégie que je voudrais faire adopter, c'est que est-ce que le peuple veut, on explique les enjeux au pays. À travers, il y a un référendum qui va se tenir au Sénégal, justement, sur les institutions. Il faut en profiter pour mettre cette question sur le tapis. Il faut absolument qu'on sache, parce que tant que nous restons dans la zone franc, nous ne pourrons pas. tant que nous restons dans la zone franc, nous ne pourrons pas. Donc, il faudra réformer cette zone franc ou l'abolir.
Oui,
réformer ou abolir, qu'est-ce que le Sénégal a décidé de faire?
Qu'est-ce que le Sénégal devrait décider?
Mais moi, de mon point de vue, de toute façon, le Sénégal fait partie de l'UEA. Donc, ou alors c'est une démarche communautaire, et ça j'en doute, la démarche communautaire, parce que les intérêts sont contradictoires. On l'a bien vu avec la crise de la Côte d'Ivoire. Bon, mais donc, moi, j'estime que si on ne peut pas passer sur le plan communautaire, bon, il faut que le Sénégal, de par justement son pédigré politique, sa position stratégique qui en avait fait la capitale de l'Afrique de l'Ouest, que le Sénégal prenne sur lui pour discuter des mesures que nous devons faire. Je vous dis que les réformes doivent porter sur la convertibilité, sur le taux de change et sur le taux, les taux d'intérêt. C'est tout. Moi, je trouve que être dans un pays où la Banque centrale, le taux de référence de la Banque centrale est de 2,5%, que les banques commerciales prêtent à 18%, c'est pas acceptable que les chefs d'État demandent aux autorités françaises de revoir ça. C'est à nous. Donc, on peut venir discuter de ces réformes-là. Les autorités doivent avoir tout le pays derrière eux pour mener ces réformes-là. Mais je sais qu'on ne peut pas continuer à prétendre que dans ce cadre-là, nous pouvons nous en sortir. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que nous pouvons nous en sortir dans le cadre tel que ça fonctionne maintenant. Et ça ne bouge nulle part. Moi, j'aurais aimé, quand ça bouge, c'est que les pressions négatives sont telles que ça explose. Où ça explose, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Tchad, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, on pouvait penser au début que, bon, écoutez, prenons pour le pire, hein, quand ça va imploser, le système est tellement juste que ça va finir par imploser. Mais ça a implosé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 50% de la masse monétaire de la zone franc. Qu'est-ce que ça, l'implosion de la Côte d'Ivoire, a remis en cause le système? Non. Donc là, c'est un piège infernal et mettons-nous, regardons les choses en face. Tant que nous ne sortons pas d'appel du piège de la zone franc, là, hein, nous ne pourrons rien faire. Et quand les Américains viennent, la zone franc, c'est la chasse gardée. Les Français, ils n'ont qu'à, c'est à eux de régler le problème. Vous avez vu au Mali, vous avez vu en Côte d'Ivoire, partout, c'est la France. Donc, eux, ils peuvent apporter le soutien logistique, mais ils n'y touchent pas. Donc, c'est au pays de la zone franc. Si on attend que la situation pourrisse, et la situation n'a jamais été aussi pourrie que maintenant. Est-ce qu'on attend que ça implose pas? C'est le terreau de tous les maux.
D'autant plus que s'il y a deux difficultés auxquelles ces pays sont confrontés, c'est la pauvreté, mais également le chômage chronique des jeunes. Quelle stratégie, quelle solution?
Mais il y a les objectifs du millénaire pour le développement. Dans le contexte du Sénégal, par exemple, on pense seulement à notre pays qui nous concerne. Donc, pour mener cette stratégie, il faut des ressources. Hein. Et je vous dis, nous sommes dans un contexte que les seules ressources que nous pouvons attendre, c'est de deux types de ressources. L'une, c'est l'aide. Bon, il faut prendre son bâton de pèlerin, hein, il faut prendre sa cédille, hein, il faut aller au Qatar, il faut aller un peu partout à droite, voir des fonds souverains pour essayer de trouver des sous. Et l'autre, c'est l'investissement, que ce soit public ou privé. L'investissement public, nous ne pouvons pas investir, nous n'avons droit qu'à des fonds, des prêts concessionnels. L'investissement ne peut être donc privé. Le privé, il faut un cadre consommé pour favoriser l'investissement public et privé. Mais je vous dis, il ne faut jamais perdre de vue le contexte où tout argent que vous pouvez attirer, de toute façon, doit ressortir librement. Vous n'avez aucun mécanisme de contrôle du mouvement des capitaux. Tout est librement transparent. Deuxièmement, pour que les gens investissent, il faut des conditions idéales. Mais comment vous pouvez investir dans un univers où les taux d'intérêt sont à 18%? À moins que vous puissiez vous autofinancer, même quand vous pouvez, comme les gens du secteur informel, ils peuvent s'autofinancer, mais il y a une limite à la capacité d'expansion de leurs activités. Donc, il faut non jamais perdre de vue, et c'est ça qui fait que depuis 50 ans, On fait croire aux gens qu'on peut se développer, alors que le cadre est impropre au développement. Je vous dis, pour financer votre développement, vous avez besoin de ressources. Mais les ressources qui rentrent chez vous, hein, les ressources qui sortent sont doubles des ressources qui rentrent chez vous. Et c'est une constance permanente. Vous avez été dans des programmes d'assistance structurelle qui ont rétabli vos finances publiques au prix de 20 ans de souffrance, de chômage, de fermeture, de privatisation. Quand les autres commencent à s'en sortir, à avoir la tête hors de l'eau, c'est nous, on doit encore recommencer un autre programme de sécurité sur le fond, sur le fonds d'intérêt. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans les bottes de ces dirigeants, parce que franchement, là, à moins de mener des réformes révolutionnaires, totalement révolutionnaires, hein, pour sortir de là, si on ne le fait pas, on ne s'en sortira pas.
Oui, dernière question. Cette visite de Barack Obama, qu'est-ce que cela va changer dans les relations entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique?
Moi, je pense que c'est une visite. Cette visite-là, c'est une visite de supervision. Barack Obama, qu'est-ce que vous voulez? Le Sénégal par rapport aux États-Unis, là où on voulait que les choses changent, c'est au niveau du commerce. Le commerce, c'est l'AGOA, c'est fixé. L'AGOA, 95% pour le moment des exportations africaines au niveau des États-Unis, c'est le pétrole. Le Sénégal ne produit pas de pétrole. Le reste, c'est des textiles. Le textile, c'est contrôlé pour le moment les exportations, le quota africain d'exportation de textile. Pour le moment, c'est plutôt les Chinois ou alors l'île Maurice qui a bénéficié. Bon, l'investissement, je vous dis que l'investissement, ils vont vous rapporter à l'outil de soutien aux politiques économiques que le Sénégal a signé avec le Fonds monétaire international. C'est tout. Donc, est-ce que dans les bagages de Barack Obama, il y a des multinationales qui vont venir pour investir au Sénégal? Est-ce qu'il y a des investisseurs privés qui vont venir investir au Sénégal? Ça, c'est vous qui pouvez me le dire. Monsieur Allon, vous voyez dans la délégation américaine qu'il y a aussi des banquiers, des hommes d'affaires qui sont venus pour investir.
Mmh. Alors, en conclusion, vous êtes auteur de l'ouvrage « L'Afrique au secours de l'Afrique ». Le dernier mot appartient aux Africains de s'organiser pour véritablement se développer, par eux-mêmes et pour eux-mêmes.
Ah oui, regardez, nous parlons de notre pays, le Sénégal. Qui est le premier partenaire commercial du Sénégal? Mais c'est le Mali. Ce n'est pas, si c'est pour les exportations, c'est le Mali. Hein, ce n'est pas des pays occidentaux, des pays émergents. Hein. Si on prend, par exemple, si on enlève le pétrole et le gaz au niveau des investissements, les plus gros investisseurs en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Hein? Donc, je crois que quand on a, du fait de notre passé, là, les yeux tout tournés vers l'extérieur, mais commençons par essayer de mobiliser les ressources internes. Je sais qu'il y en a. Commençons par mobiliser les ressources internes et faisons avec ces ressources internes. Et là, dans ce cas-là, on ne le dira jamais assez, la meilleure politique, la politique là, qui peut être la mieux réussite sur laquelle on peut s'adosser le mieux, c'est dans une politique du contexte d'intégration des économies. Un petit pays comme le Sénégal, la Gambie, le Libéria, non, il faut, dans le cadre de la CEDEAO, pousser cette intégration économique. Mais malheureusement, là aussi, là où le bas blesse, c'est que hein, c'est entre les frictions, entre le système francophone, le système anglophone, on en est encore là. C'est vraiment, contrairement aux pays d'Afrique de l'Est, où il y a une communauté économique d'Afrique de l'Est, totalement fonctionnelle maintenant. Hein? Le SADC avance à grands pas avec Comesa, mais nous, on fait du succès. C'est-à-dire, la CEDEAO, tant que c'est politique, tant que c'est l'intervention militaire, c'est parfait. Mais quand il s'agit de s'appuyer sur la CEDEAO, un marché de 200 millions de personnes, hein, pour booster notre économie, non. Non, c'est dommage.
C'est dommage. Alors, Sanou Bey, je vous remercie.
Je vous remercie, Omar.
Oui, ça a été un plaisir, en tout cas, de vous accueillir à l'émission Objection.
Merci, c'est moi.
Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Allez, au revoir. Yo
Yomine kabitim rew man mi lo mang lay ñaan ak lo ko man da am ak lo ko man fi mel bul faté Africa ici ou ailleurs la paix crie du bonheur même si le ciel pleurait luttons pour nos frères kon jamu Africa mom lay ñaan mané jamu Africa moy suñu natangé Yo, Allah, adu jam to Burundi. Yo, Allah, adu jam to Casamance. La ulmi jona.